Europe 1. 13h, 14h, Thomas Chenel.
Bonjour à tous, bienvenue en ce vendredi 19 avril à la une de l'actualité. 2000 participants à la marche blanche en hommage à Philippe assassiné à Grande-Synthe. L'hypothèse d'un guet-apens par deux ados confirme, nous serons sur place dès le début du journal. Une cellule psychologique ouverte à Souffelweyersheim dans le Bas-Rhin après l'agression de deux jeunes filles au couteau. Une collégienne de 14 ans est décédée, elle avait fait un malaise cardiaque lors du confinement dans son établissement. La riposte d'Israël à l'Iran a-t-elle eu lieu cette nuit après les explosions dans le centre du pays? L'Iran minimise, Israël ne commente pas, on vous explique tout. Et puis la 13, fermée dans les deux sens pour une durée indéterminée, impossible de prendre l'axe majeur entre Paris et la Normandie en ce vendredi de départ en vacances scolaires. Europe 1 vous dévoile les chiffres des routes endommagées en France. Vous avez le programme à 13h02, la tendance météo, Mickaël Poteau.
Eh bien c'est très simple Thomas, c'est une France coupée en deux aujourd'hui, nuages et pluies au nord, très beau soleil dans le sud et je développe tout ça juste après votre journal Thomas.
Moment de recueillement et d'émotion à Grande-Synthe où une marche blanche était organisée pour rendre hommage à Philippe, ce jeune de 22 ans, tabassé à mort en début de semaine. Il est tombé dans un guet-apens tendu par des ados de 14 et 15 ans. Lionel Gougelot, vous êtes sur place pour Europe 1. Beaucoup d'émotion et d'incompréhension chez les participants.
Oui, des sentiments que l'on a pu deviner sur les visages graves de cette foule de quelques 2000 personnes rassemblées sous une pluie fine derrière les deux frères et les proches de Philippe en tête de cortège et cette banderole avec la photo du jeune homme auquel Dominique, un habitant, a voulu rendre hommage.
C'était une personne bien vue à Grande-Synthe comme éducateur. C'était une bonne personne, quoi. Malheureusement, cette bonne personne est partie pour rien. Vraiment, là, c'est atroce, quoi. C'est atroce.
Beaucoup de larmes, mais aussi une colère sourde parmi les participants à cette marche blanche.
Ce genre de choses, on ne peut pas l'accepter. Impossible. Ça peut être notre enfant, ça peut être tout le monde. Ça, non, non. Ça va trop loin, c'est pas possible.
Après une halte devant l'endroit où le corps du jeune homme a été retrouvé, massacré mardi matin, Yanis, un ami proche, a pris la parole à la mairie pour réclamer justice.
Des criminels s'en sont pris à un innocent et l'ont laissé pour mort sur le bitume. Pourquoi ? Pour rien. Si nous devons porter haut une parole, nous dirons haut et fort que justice soit faite pour Philippe.
Sentiment partagé par Christine, une grand-mère qui connaît bien la famille de Philippe.
Moi, je me dis qu'il devrait y avoir des plus grosses peines, même pour ces âges-là, parce qu'ils n'hésitent pas à tuer. Ça ne peut pas durer. Il faudrait que le gouvernement fasse quelque chose quand même.
Les deux agresseurs de Philippe doivent être présentés aujourd'hui devant un juge d'instruction. Le procureur de Dunkerque devrait en dire plus cet après-midi sur les derniers développements de l'enquête.
Merci. Lionel Gougelot, correspondant Europe 1 dans le Nord, en Alsace, l'adolescente de 14 ans victime d'un arrêt cardiaque hier, en marge de l'attaque au couteau, est décédé. Le suspect, qui a blessé légèrement les deux autres fillettes, est toujours en garde à vue. Il souffre de problèmes psychiatriques. On retrouve à Souffelweyersheim, près de Strasbourg, Mélina Fachin pour Europe 1. Vous êtes devant le collège où l'adolescente est morte. Mélina, le collège a rouvert ce matin.
Oui, mais personne ici n'a vraiment le cœur à faire court. Un petit bouquet de fleurs jaunes a été déposé contre la porte de l'établissement. Deux gendarmes sont postés devant le collège. Lina est en sixième. Hier, pendant le confinement instauré juste après l'attaque, elle a vu l'adolescente très stressée faire un malaise dans un couloir.
Elle n'était pas bien, elle n'arrivait pas trop à respirer. Elle était debout et ses copines, ils l'ont un peu portée, quoi. Ils ont essayé de la rassurer, puis je me suis dit, la pauvre.
Lina est évidemment choquée par ce qu'elle a vécu. Alors sa maman, Aurélia, a souhaité l'amener ce matin à la cellule psychologique mise en place dans le collège.
Pour qu'elle puisse extérioriser ce qui ne va pas, quoi. Hier soir, elle est rentrée, elle était toute stressée, elle n'a pas dormi tout de suite. Minuit, elle ne dormait toujours pas, quoi.
Parce que j'ai repensé à tout ce qui s'est passé. J'ai un peu peur que ça se reproduise.
Layana et Anna, deux collégiennes de 4e, ont elles aussi ressenti le besoin de parler.
C'était ma copine depuis la 6e, donc ça m'a fait très bizarre.
Elle a toujours été très gentille et souriante. J'ai de la peine, quoi.
Chaque élève qui a un dossier médical à l'infirmerie, il a ses médicaments. Elle n'avait rien, du coup c'était assez surprenant.
Cette cellule psychologique sera également ouverte lundi, premier jour des vacances scolaires ici qui démarre ce soir.
Mélina Fachin à Souffelweyersheim pour Europe 1. On ne connaît pas encore les mobiles de l'attaque. Le suspect est en train d'être interrogé. Il souffre de problèmes psychiatriques. Il avait été plusieurs fois hospitalisé. Visiblement, son suivi médical semble avoir été défaillant. Mais c'est tout le secteur de la psychiatrie en France qui traverse une grave crise, dénonce le professeur Michel Lejoyeux.
Nous avons aujourd'hui une crise majeure de l'attractivité avec un grand nombre de postes vacants, que ce soit des postes d'infirmiers ou des postes de médecins. Et ces manques de personnel font que les équipes ont du mal à assumer les soins quotidiens. Le nombre de lits en psychiatrie a été réduit de manière dramatique. Tous les collègues qui gèrent des services d'urgence s'arrachent les cheveux tous les jours pour trouver des lits, que ce soit pour des jeunes qui ont des conduites suicidaires, que ce soit pour des patients agités, ou que ce soit même pour le tout venant de la psychiatrie. Les malades psychiatriques sont aujourd'hui les malades qui vont rester le plus longtemps, comparé aux autres disciplines, dans un service d'urgence, sans trouver un lit d'accueil.
Le professeur Michel Lejoyeux sur Europe 1.
13h, 14h, Thomas Chenel.
Il était 4h du matin quand des détonations ont retenti dans le centre de l'Iran.
Les officiels iraniens ont d'abord annoncé de fortes explosions, puis signalé des drones abattus par la défense iranienne, moins d'une semaine après l'attaque sans précédent contre Israël. Pas de commentaire pour l'instant de l'armée israélienne. On va retrouver l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv, Wilfried De Villers. Wilfried, à 7h, toujours beaucoup de confusion sur l'origine de l'attaque.
Oui, confusion, c'est exactement le mot. Voilà maintenant près de 10 heures que ces explosions ont été rapportées dans le centre de l'Iran. Mais les informations les concernant sont contradictoires. D'un côté, des sources iraniennes affirment que 3 drones ont bien pénétré l'espace aérien du pays dans la nuit et qu'ils ont été abattus. De l'autre, l'agence de presse perse Tasnim a indiqué dans la matinée qu'aucune information ne fait état d'une attaque de l'étranger. Ce qui est sûr, c'est que les explosions ont eu lieu tout proche d'Ispahan, ville hautement stratégique parce qu'elle abrite d'importants sites du programme nucléaire iranien. Lors d'un discours ce matin, le président iranien Ebrahim Raisi a pris la parole sans dire un seul mot de ces explosions. Côté israélien, silence radio également pour l'instant. Aucun commentaire ni du gouvernement ni de l'armée, mais un bruit de fond qui monte en coulisses. Un responsable des forces armées israéliennes affirme officieusement au Washington Post que c'est bien l'État hébreu qui est à l'origine des frappes de la nuit. Une riposte à minima, certes, mais qui montre, ajoute-t-il, qu'Israël est bien capable de frapper l'Iran en plein cœur. Une façon de restaurer une forme de dissuasion sans prendre le risque d'une guerre régionale, d'autant que ces frappes interviennent à quelques jours de Pessah, la Pâque juive, fête la plus importante de l'année ici en Israël.
Wilfried De Villers en Israël pour Europe 1. Depuis ce matin, les appels à la retenue se multiplient. Le G7 veut une désescalade absolue dans une région en proie à une grave tension, réagit le chef de la diplomatie italienne qui préside le G7. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a quant à elle appelé les partis à s'abstenir de toute nouvelle action. La Chine s'oppose à toute action susceptible d'entraîner une escalade des tensions. L'ambassade des États-Unis à Jérusalem conseille à ses employés et aux membres de leur famille de ne pas voyager en dehors des zones de Tel Aviv et de Jérusalem. Et l'Australie exhorte ses ressortissants à quitter Israël et les territoires palestiniens. Dans un instant, les pistes de Gabriel Attal pour durcir encore les règles de l'assurance chômage. Le Premier ministre confirme son projet de nouvelle réforme pour réduire la durée d'indemnisation, modifier les conditions d'ouverture de droit et baisser le montant de l'allocation. On vous livre les détails sur Europe 1.
Thomas Chenel vous informe cette semaine de 13h à 14h sur Europe 1.
Europe 1 13h.
01 80 20 39 21 pour réagir au sujet d'Europe 1 13h avec Thomas Chenel. Et votre journal, Thomas, se poursuit maintenant avec la nouvelle charge de Gabriel Attal contre les règles de l'assurance chômage.
Le Premier ministre souhaite voir aboutir une nouvelle réforme d'ici à l'automne prochain. Hier soir, il a dévoilé les leviers qu'il pourrait enclencher. 3 possibilités sont ouvertes, Baptiste Morin.
Oui, il y a plusieurs façons de réformer l'assurance chômage. Vous pouvez toucher à la durée d'indemnisation, c'est ce qui a été fait récemment. Désormais, un chômeur est indemnisé pendant 18 mois au lieu de 24 par le passé. Vous pouvez toucher au montant de l'indemnité. Depuis 2021, par exemple, elle baisse au bout du 7e mois pour les hauts revenus. Ou vous pouvez toucher au temps qu'il faut avoir travaillé pour pouvoir prétendre à une indemnité chômage. Et c'est sur ce levier que Gabriel Attal veut agir. Aujourd'hui, il faut avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers. Il y a déjà eu une modification de ces règles en 2021. Une nouvelle réforme pourrait consister à allonger cette durée minimum de 6 mois sur 24 ou alors à exiger que ces 6 mois de travail soient réalisés sur une durée moins longue. Gabriel Attal a en tout cas été clair, la nouvelle réforme doit cibler ceux qui enchaînent contrats courts et périodes de chômage.
Le ministre délégué à l'industrie se dit prêt à recevoir les acheteurs potentiels de Biogarant. Si le fabricant français de médicaments génériques est vendu, les conditions seront drastiques, prévient Roland Lescure, qui ne souhaite pas cette vente, alors que le gouvernement cherche plutôt à faire venir en France les grands laboratoires. Prenez garde, si vous devez vous rendre en Normandie ce week-end, la 13, principal axe depuis Paris, est fermée dans les deux sens pour une durée indéterminée. Fermeture aux portes de Paris jusqu'à Vaucresson. Le trafic est interrompu depuis hier 23h suite à la découverte de problèmes d'infrastructures sur la chaussée selon la direction des routes d'Île-de-France. Des routes parsemées de nids de poules, des accotements dangereux, des signalisations presque invisibles, tous les automobilistes le constatent. L'état du réseau français inquiète même la Cour des comptes qui dénonce un défaut de stratégie nationale alors qu'il est indispensable au transport de marchandises. Margot Faudéré, qui gère quoi et combien ça coûte ?
Avec plus d'un million de kilomètres, dont une majorité de petites routes, le réseau routier français est l'un des plus grands d'Europe. En revanche, il est loin d'être le mieux entretenu. Alors que la France était en tête du classement mondial de la qualité des infrastructures routières en 2012, elle a été reléguée à la 18e place 7 ans plus tard, en cause notamment une baisse des investissements dans le réseau. Et la situation budgétaire actuelle n'arrange rien, explique André Léniel de l'Association des maires de France.
Quand on est budgétairement contraint, l'une des variables d'ajustement, c'est le report d'investissement ou d'entretien sur les routes pour l'ensemble des collectivités territoriales, mais aussi pour l'État.
En 2022, seulement 9 milliards d'euros ont été investis dans les voiries par les administrations publiques, selon l'Observatoire national de la route, 20% de moins que 10 ans auparavant. Pourtant, plus on attend pour rénover, plus ça coûte cher, rappelle Florence Fournier du syndicat Les Routes de France.
Si vous ne mettez pas 1 euro aujourd'hui, ça vous coûtera 10 euros dans quelques années, en 5 ans par exemple. Et donc proportionnellement parlant, ce n'est pas du tout intéressant d'attendre que ça dégrade encore.
Aujourd'hui, entretenir 1 km de national coûte en moyenne 120 000 euros.
Comme une impression que l'hiver voudrait se rappeler à notre bon souvenir en cette fin de semaine, alors que le début du printemps est particulièrement doux. Les gelées ont fait leur réapparition en plaine. Il a fait 1 degré à Lyon, moins 1 à Limoges, moins 3 à Aurillac. Les températures repassent en dessous des normales de saison sur l'ensemble du territoire et ça va encore diminuer à partir de dimanche. Beaucoup d'inquiétudes chez les arboriculteurs. Dans le Tarn-et-Garonne, les cultivateurs de prunes craignent un gel destructeur, Charles Lullier.
Dans cette exploitation de 10 hectares, les prunes, encore très vertes, ont pour l'instant été épargnées par le gel. Mais Dorian, qui aide ses parents dans les vergers, n'est pas tranquille. Hier matin encore, il n'y avait que 2 degrés.
On n'est pas serein. Tous les matins, on peut avoir une gelée et tout emporter. La nuit, on ne dort pas très bien.
Inquiétude légitime, car ici, pas assez de bras pour placer des bougies qui réchaufferaient les vergers. Pas assez de moyens non plus pour installer des sondes de température. Dorian fait donc comme il peut.
En termes de gel, on n'est pas équipé. Donc on suit la météo à la télé, mais on n'a pas de sonde dans les champs ou quoi que ce soit. Donc quand il gèle, nous malheureusement on ne peut rien y faire.
Un gel qui peut ici avoir des conséquences catastrophiques. Marie, la maman, en sait quelque chose.
2021 du gel, 2022 le gel qui nous a tout ravagé. On a eu 50% de pertes. Ça va d'aller 80 000 euros le déficit, uniquement à cause de la météo. Il faut attendre que la prochaine récolte vienne.
Si les prunes survivent à cet épisode de froid, il faudra, juste avant la récolte estivale, affronter un dernier adversaire, l'orage, et il est tout aussi dévastateur. À Moissac, Charles Lhuillier, Europe.
Le rêve européen est à portée de ballon pour les joueurs de l'OM au lendemain de la qualification des Marseillais en demi-finale de l'Europa League. Hier soir, l'OM a éliminé le Benfica à Lisbonne au tir au but devant un vélodrome en fusion, en pamoison devant son héros du soir, Faris Moumbagna, dont la tête a propulsé l'OM vers le dernier carré. Ce sera face à l'Atalanta Bergame le 2 mai prochain. C'est le début ce soir de la 30e journée de Ligue 1. Nice, 5e du classement, reçoit Lorient, le 16e qui vise le maintien. Et puis, elle est dans les oreilles de tous les plus jeunes. C'est la première artiste milliardaire grâce au seul revenu tiré de sa musique. On lui devrait même la hausse du PIB américain. Elle pourrait aider Joe Biden à remporter la présidentielle de novembre. Le phénomène Taylor Swift, prête à battre tous les records avec son nouvel album. Le 11e opus de la mégastar est sorti ce matin, The Tortured Poets Department, le département des poètes torturés dans la langue de Molière. C'est tout un univers, Mathieu Prieur.
Du rock, de la country et même du rap, Taylor Swift se dépasse une fois de plus. 31 titres, certains rythmés et d'autres plus mélancoliques, comme Fortnite en duo avec Post Malone, connu pour ses compositions pop. Les fans ont l'habitude, dans ses albums, Taylor Swift parle souvent d'amour et surtout de rupture. Celle avec l'acteur britannique Joe Alwyn lui aurait inspiré quelques titres, dont So Long London, Au revoir Londres, avec des paroles qui visent hasard ou pas une personne venant d'outre-Manche. Changement d'ambiance avec Florida en duo avec le groupe Florence and the Machine. La star de 34 ans est la première artiste à être devenue milliardaire seulement grâce aux revenus tirés de sa musique. Mais pour Taylor Swift, l'essentiel n'est pas là. Elle a récemment déclaré au sujet de ce nouvel album, « Écrire la musique, c'est ce qui me fait tenir debout ».
Et le Swiftie Mathieu Prior ne manquera pas sans doute la tournée de Taylor Swift en France, début mai, Paris et Lyon, où sa venue les 2 et 3 juin a fait bondir de 49% les recherches de vol vers la capitale des Gaules, selon le réseau d'agences de voyage Opodo.